et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! L'entrevue d'aujourd'hui avec Sandra Bordelot m'a beaucoup inspirée. Nous abordons entre autres un sujet encore jamais abordé sur le podcast et il s'agit de la monoparentalité en tant qu'expat. Cette maman a suivi son instinct et son guts et elle est partie voyager à travers le monde avec sa petite fille qui avait alors 8 ans. Elles ont été en déplacement pendant plus d'un an et elles ont finalement déposé leur valise à l'étranger. Je vous laisse découvrir à quel endroit. Un autre sujet dont nous parlons dans cet épisode est de se construire une carrière à l'étranger en tant que travailleur autonome. C'est exactement ce que Sandra a fait et je suis certaine qu'elle saura en inspirer plusieurs d'entre vous à se créer une vie sur mesure. Bonne écoute! Bonjour Sandra, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Toi?
Ça va super bien, merci. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Tu as une histoire, bien, encore une fois particulière là, sur le podcast, mais la tienne, je l'avais, a ses particularités avec desquelles on n'a pas encore entendu parler, si on veut. Et donc, j'ai vraiment hâte qu'on aborde tous les sujets qu'on va aborder dans cette entrevue-là. Premièrement, j'aimerais ça que tu nous racontes d'où tu viens au Québec et c'était quoi ta situation avant de partir et qu'est-ce qui t'a amené à t'expatrier?
Ben moi, en fait, je suis originaire des Basses-Laurentides, de Saint-Jérôme, là, proche de Montréal.
OK.
J'ai fait mes études là. J'ai été passée, quand j'étais enfant, presque un an et demi à Toronto chez mon oncle. Donc, ça était comme, si je pourrais dire, ma première petite expatriation.
Oui, sortie du Québec.
Et, exactement, mais tu sais, j'avais comme 13 ans, fait que c'était comme beaucoup pour moi à cet âge-là, partir tout seul comme ça chez mon oncle. Mm-hmm. Mais j'adorais et ça m'a comme donné la piqûre et comme ça m'a dit que moi, je passerais pas toute ma vie à la même place, puis pas au Québec tout le temps. Tu sais, ça a comme une tâche là, sur moi. Là. J'étais étampée. Là. Bon, là, il va se passer des choses dans ta vie, ça c'est clair.
Tu as comme déjà goûté à cette petite sortie de zone de confort-là qui te fait goûter en même temps à une liberté de te trouver peu importe où est-ce que tu es. On continue à vivre même si on est ailleurs. Là.
Exactement, mais surtout le goût de voir ce qui se passe ailleurs.
Oui. Oui, tu te rends compte qu'il n'y a pas juste ton petit monde autour de toi, là, tu sais, que tu peux élargir tes horizons.
Exactement.
Donc là, tu es allée là pendant un an, tu dis?
Oui, presque un an et demi. Presque un an et demi, je suis revenue. Après ça, bon, j'ai resté là, j'ai fait mon cégep. Puis quand j'ai commencé l'université, je suis déménagée à Montréal. Mm-hmm. J'ai pas terminé mon université. J'ai eu une opportunité pour réaliser un rêve que j'avais depuis toujours. Et puis, j'ai fait mon cours de pilote d'hélicoptère.
Wow!
Pilote de brousse. Et puis, donc, j'ai fait mon cours là à Belle-Oeil. Et puis, par la suite, je suis déménagée sur la côte nord à Sept-Îles.
OK.
Parce que il y a beaucoup de compagnies d'hélico là, donc c'était l'environnement le plus propice pour moi pour trouver du travail.
Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais piloter un hélicoptère?
J'étais pilote d'hélicoptère. Et puis donc, c'est ça, je suis arrivée là, j'ai commencé, j'ai fini par trouver un peu de boulot, mais malheureusement, il y a eu les attentats du 11 septembre. Et puis, moi, j'étais la dernière rentrée. Ça nous a affecté beaucoup. Donc, étant la dernière rentrée, ben, j'ai été la première slackée, si on peut dire.
Fait que là, pour un bien, peut-être.
Ben, ça m'a amené à d'autres choses.
C'est ça.
Fait que comme je suis habituée déjà de toujours apprendre à me revirer, sur un dixième, j'ai trouvé du boulot comme observatrice de pêche en mer. Je connaissais rien là-dedans. ils m'ont pris parce qu'ils ont dit, ben écoute, elle est pilote, c'est clair qu'elle n'aura pas le mal de mer. C'était la base parce qu'il y avait bien de la difficulté à trouver, en fait, des gens qui n'étaient pas malades puis qui étaient capables de travailler de cette façon-là puis de bouger facilement dans les zones éloignées. Donc, j'ai travaillé comme ça, comme observatrice. J'ai travaillé un an et demi, deux ans pour cette entreprise-là. J'ai connu ce qui est devenu mon mari à ce moment-là.
OK.
Et puis, il était capitaine de crabier. Mais là, au niveau de mon boulot, mes employeurs, il y avait un peu de conflit parce que c'est clair que je me ramassais comme en conflit d'intérêts.
Mais dis-moi, Sandra, tes études à l'université, est-ce que ça avait quelque chose à voir avec ça? Ou?
Non, c'est ça. J'ai lâché l'université pour aller faire mon cours de pilote.
OK. Puis, t'étudiais en quoi avant?
Moi, j'ai étudié en politique internationale.
OK, c'est bon.
Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai connu mon mari. Puis là, ben c'est ça. J'ai pris la décision de finalement, j'avais pas le choix. Il fallait que je prenne cette décision-là, là, en ce qui est devenu mon mari ou mon travail comme observatrice. Fait que c'est clair que j'ai choisi mon mari, tu sais. Fait que mon mari m'a dit, ben écoute, regarde, de toute façon, tu es habitué à ces bateaux, puis tout. Fait que je suis rentrée comme dans son entreprise. Fait que j'ai commencé à travailler avec lui sur le bateau. Et fait que, puis on s'est mariés, puis bon, on a fait notre vie comme ça. J'ai eu ma fille. Là, avec une fille aussi, là, ça a changé la donne parce que c'était un peu ridicule d'aller en pêche sur un bateau. La petite était bébé. J'ai fait la première saison. Mais c'était vraiment quelque chose qui était comme surréaliste. Là, je tirais mon lait sur le bateau. Là. C'était vraiment...
Elle allait à la garderie, tu partais le matin?
Oui, c'est ça. Je l'amenais à la garderie comme à 3 heures du matin. Là.
OK.
Je tirais mon lait sur le bateau pour que la gardienne allait du lait. C'était vraiment une histoire de fou. Là. Ça avait comme pas de bon sens. Fait que là, on s'est dit, écoute, regarde, on finit cette saison-là. Puis moi, ben donc je restais à la maison. Fait que j'ai pris plus le côté administratif de l'entreprise. Puis, fait que c'est ça. On a continué comme ça. Quand ma fille a eu 5 ans, on a déménagé. Parce que là, moi, j'avais comme plus de raison de rester à cette île. Là. C'était un peu déprimant. Là. Je suis une fille de la ville. J'aime quand ça bouge. J'aime la civilisation. Donc, c'est ça, j'avais mis des pressions un peu. Puis, on s'est revenu. On s'est établi à Pointe-Calumet, pas loin de Montréal.
Ouais.
Puis finalement, quand ma fille a eu 7 ans et demi, on a décidé de se séparer, puis j'ai divorcé. Là, ma fille, elle avait à peu près 8 ans. Là, c'était compliqué parce que moi, j'étais comme plutôt comme... Comment je pourrais dire? J'étais comme une employée, en fait, dans cette entreprise-là. Je m'étais investie là-dedans, mais là, ça se pouvait comme plus. Fait que là, je me ramassais comme plus de job. Puis en ayant plus de job, ben j'ai perdu la maison.
Donc là, ça prenait un toit, il fallait subvenir à tes besoins.
Ça. Fait que là, j'avais comme plus rien. Tu sais, il fallait comme, je trouve, une façon de me réinventer rapidement, tu sais. Mais j'avais la garde de ma fille, ce que pour moi était de toute façon le plus important, tu sais. Je voulais ma fille. Bon, j'avais ma fille, maintenant, il fallait savoir qu'est-ce qu'on faisait. Fait que là, je me suis dit, ben, regarde, j'ai toujours voulu partir. Puis, j'ai eu une opportunité, en fait, vu que ça faisait longtemps quand même, je faisais un peu d'administration, tout. Je suis tombée par hasard, là, c'est vraiment le hasard qui a fait ça, sur quelqu'un qui faisait un sabbatique, un chercheur, et puis qui avait décidé de faire son sabbatique en voyageant pour un an et demi. Mais qui avait besoin, en fait, d'une assistante pour dans ses voyages, pour gérer tout le côté administratif du voyage. Fait que moi, j'ai dit, il me l'a offert. Moi, j'ai dit, écoute, moi, c'est sûr que ça m'intéresse vraiment beaucoup, là. Mais il y a ma fille. Fait qu'il n'y avait pas de problème. T'sais, on s'était vraiment entendu. Fait que ma fille suivait, je faisais l'école à la maison.
Mais là, Sandra, attends un petit peu. Premièrement, est-ce que tu savais à ce moment-là pour combien de temps tu partais? Tu savais que c'était un an?
Un an et demi.
Un an et demi, puis là, au niveau de ta fille, là, de son papa, c'est à quel point c'était compliqué?
Là, on s'est ramassé au tribunal.
Oui, c'est ça. Est-ce que c'est compliqué de faire ça?
Oui, puis non, parce que de toute façon, c'était clair que c'était moi qui avais la garde. Fait qu'en fin de compte, au tribunal, ça a plus été, comment je pourrais dire, le côté organisationnel de la chose. C'est-à-dire de comment que lui, quand aurait droit de l'avoir, en fait. Donc, ça voulait dire que prendre un billet d'avion pour aller passer, mettons, 3 semaines ou un mois chez lui, puis revenir, tu sais. Donc, elle a commencé jeune à voyager toute seule par avion. Donc, c'était plus ça, là, au niveau du tribunal, c'était vraiment d'établir comment qu'on s'organisait pour que lui y ait accès quand même un peu. Mais je veux pas parler à mal, là, puis je veux pas m'embarquer là-dedans, mais tu sais, c'est pas un papa poule, là. Donc, pour lui, c'était pas super important comme de l'avoir 50-50, là, tu sais.
Donc, vous étiez pas dans une bataille non plus de émotive, là, ou de...
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
OK, donc c'est...
C'est pour lui, avoir 5 semaines par année, c'était bien correct, tu sais. OK. Fait que là, un peu à Noël, puis là, un peu l'été, tu sais.
Et elle, sa fille, comment elle vivait ça de se faire dire « Écoute, on va partir un an et demi? »
Bien, premièrement, comment j'ai fait ça? J'ai pas pris la décision toute seule. Quand que j'ai eu cette opportunité-là qui s'est présentée à moi, j'en ai parlé à elle. Je suis peut-être une mère un peu bizarre. Moi, je me suis toujours dit, dès que ma fille était petite, je lui ai jamais vraiment rien caché.
Mais je te comprends. On est exactement comme ça. C'est mieux qu'ils en savent plus que moins, il me semble.
Je me suis toujours dit, ils sont capables, ils sont des êtres humains comme nous, elle a droit au même respect hein, que n'importe quel adulte. En tant qu'être humain, tout le monde a le droit au même respect. Donc, elle peut entendre tout tant que c'est dit d'une façon
adaptée
à son âge.
Absolument. Hein?
Tu parles à un sourd et muet, ben tu y parles en signe. Ben, tu parles à un enfant, tu y parles dans un langage qu'il peut comprendre. Pour moi, c'est juste ça. Il n'y a rien qui n'est pas possible de dire. Il y a une façon de le dire. Puis, j'ai toujours mis participante dans les décisions, ma fille. Donc, quand cette opportunité-là s'est présentée, je lui en ai parlé. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu en dirais de vivre cette expérience-là? D'une façon ou d'une autre, les circonstances sont actuellement. D'une façon ou d'une autre, on va quitter la maison ici. Donc, soit qu'on se retrouve une autre maison proche d'ici, ou soit qu'on en profite pour aller vivre une expérience ailleurs.
À ce moment-là, elle avait quel âge?
Elle avait presque 8 ans.
OK.
Fait qu'elle m'a dit, dans sa grande sagesse, « Ben écoute, maman, tu vas me donner quelques jours, puis je vais y penser. »
Ah! Parfait, parfait.
J'ai dit, bien, parfait, c'est correct. Ça veut dire qu'elle a catché qu'il se passait quelque chose. C'est beau, c'est correct. J'ai respecté ça. Puis, finalement, elle a dit, OK, oui, ça m'intéresse de le faire. Fait que là, on a tout organisé ça ensemble. Elle n'a jamais été tenue à l'écart de comment les choses étaient pour se passer, vers quel pays on était pour s'en aller en premier. Quand que je cherchais... les maisons ou les appartements où on était pour loger quand on arrivait, mettons, à Madrid ou à Melbourne, ben, elle les regardait avec moi sur Internet. Je la faisais participer beaucoup. Donc, ça a été aussi son voyage. Donc, ça a été quelque chose, je pense, qui a fait qu'elle a bien pu le vivre. Mais aussi, je me suis donné un devoir, c'est que ma fille, elle a un chat. Elle avait aussi ce chat-là avant de partir et je me suis dit, avoir amené son chat. Parce que son chat, ben c'était quelque chose qui pourrait, je pense que, où est son chat, c'est là qu'elle a sa maison.
Oui.
Donc, c'est sûr que c'est compliqué, voyager avec des animaux.
C'est plus compliqué qu'une doudou, mettons, là.
Ouais, c'est ça, tu sais. Regarde, c'est pour son bien-être à elle, tu sais, c'est une espèce de forme de zoothérapie, si on peut dire.
Ouais, je sais mais c'est pas parfait. Trop. Ouais.
Fait que je l'ai fait, cet effort-là, pour elle. Je me disais, à quelque part, elle a fait un effort pour moi qui avait envie de vivre ce voyage-là. Fait que moi aussi, il faut que je fasse des efforts pour elle. Tu sais, on est deux là-dedans, puis on se donne mutuellement des choses, puis on fait des sacrifices mutuellement l'un envers l'autre, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on est parti. Non, ça s'est bien passé.
Sandra, toi, tu étais l'assistante là, de ce chercheur-là qui partait pour un an et demi.
Oui.
Vous logiez pas ensemble. Là. C'était comme lui donner un revenu, puis toi, tu devais être à tel endroit à tel moment. C'est pas mal ça.
Non. Non.
OK, parfait. Donc, là, juste avant de partir, là, une dernière question avant d'être complètement expat, là. Comment les proches, à part le papa de la fille, là, comment votre ton entourage, les amis, la famille, comment c'est perçu là, que tu partes comme ça avec ta fille?
C'est facilitant et ça ne l'est pas en même temps. Moi, j'ai plus de famille. Donc, okay. Moi, je porte mes parents très jeunes. J'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, j'ai pas rien. Fait que personne à ce niveau-là est copé, si je peux dire.
Oui, OK.
Il y avait comme juste les amis. C'est pas rien, là, quand je dis juste les amis. J'ai des amis qui sont très proches, que, en fait, c'est devenu comme ma deuxième famille. Mm-hmm. C'est sûr que... Bon, ils l'ont pris bien. Ils m'ont jamais arrêté. Ils m'ont toujours encouragé. Ils ont toujours su, quelque part, que j'étais pas... comme tout le monde.
Que t'étais un oiseau libre, que t'étais...
Ouais, ça, exactement.
En même temps, c'est...
Partir à cette île, revenir, me promener. Fait qu'ils savaient que moi, je t'offre pas longtemps à même place, tu sais.
Ouais, puis que t'étais déjà autonome depuis longtemps dans tout ce que tu faisais, là, pour toutes sortes de raisons, dont celle-là.
Exactement, c'est ça.
T'avais pas la pression, disons, familiale ou sociale de ne pas faire quelque chose. Ça faisait longtemps que tu étais habituée de rouler comme ça, ta bosse.
Oui, exactement. Tout le monde m'a toujours vu comme ça. C'est sûr qu'il y a eu peut-être, je dirais, pour être honnête, un peu de jugement au niveau de ma belle-famille. Mm-hmm. Tu sais, pas comprendre que, tu sais, arracher la petite à son environnement ou tout... Mais ouais. Je me disais, puis tu sais, Tess, ma fille, de toute façon, était partante dans cette histoire-là, puis elle avait le goût. Puis elle aussi était consciente que c'était une expérience enrichissante pour elle, tu sais, puisqu'on avait parlé beaucoup, on avait regardé des reportages, on avait... Fait qu'elle avait le goût de ça, puis je pense que oui, c'est un enrichissement. Oui, j'ai fait l'école à la maison pour elle, sa quatrième année primaire, en fait. Puis tu sais, je suis pas enseignante, là, tu sais, j'aurais pas fait ça, tout ça. Toute sa scolarité, là, j'ai pas les compétences pour le faire, mais tu sais, j'ai pris le cursus scolaire, la commission scolaire où j'étais avant de partir, j'ai été consultée à son école où elle était, je parlais avec la direction, j'ai acheté les livres, on a fait un programme comme si elle était pour être là. Donc, les mêmes matières, tu sais, le même cursus, je me faisais vraiment un devoir de lui donner le mieux que je pouvais. Puis je me disais en même temps, ben tu sais, elle va visiter le Prado, elle va visiter, tu sais, elle va tellement apprendre plus. Tu sais, tu fais l'art plastique au Prado, là, à Madrid.
Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, tu es allé chercher les ressources et les outils, mais oui, il y a des défis dans l'expatriation, mais il y a tellement plus que ça. Du côté positif que, tu sais, au bout du compte, ça vaut la peine là, de l'embûche ou la difficulté. Là.
Exactement. T'sais, elle a fait des expériences tellement incroyables. Comme je disais, il fallait bien qu'elle aille voir son père de temps en temps, mais moi, je ne pouvais pas l'emmener. Là, des billets d'avion, il y a une limite. Je ne vais pas faire l'aller-retour en avion. Il pourrait l'amener à l'aéroport de Montréal. Donc, tu sais, là, bien... Il y a les escortes, hein, les compagnies aériennes fournissent, tu peux avoir un service d'escorte quand ils sont petits. Donc, tu sais, la première avion qu'elle a pris tout seul, je m'en rappelle, là, j'étais tellement nerveuse, c'était à Bâton Rouge, en Louisiane. Elle faisait Bâton Rouge, Montréal. Elle avait 8 ans avec son petit sac à dos. Elle avait son escorte, puis ce qui était beau aux États-Unis, ben, en tout cas, là, contrairement à d'autres aéroports que j'ai vus, ils nous laissaient, ils m'ont laissé passer la sécurité pour aller attendre avec elle, tu sais, à la porte d'embarquement. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Puis là, j'ai vu son escorte arriver, mon Dieu, on aurait dit Hulk Hogan. Et là, je pars à rire. Tout le monde dans la file, là, tous les passagers sont partis à rire, voir cette espèce de gros bonhomme chauve, là, tu sais, un gros colosse arriver puis prendre la petite, mon Dieu. Il aurait pu la prendre dans sa main, tu sais. Je dis, bon, OK, il est en sécurité, hein, il n'y aura pas personne qui va lui faire du mal.
En garde du corps.
Ouais, c'est ça, tu sais. Tu sais, c'était toutes sortes d'expériences comme ça. Ça rappelle encore.
Au niveau de la paperasse, là, tu sais, je veux dire, à chaque changement de pays, à chaque, tu sais, bon, il y a toute l'histoire des visas, mais aussi toute l'histoire de, tu sais, un enfant qui traverse entre son papa puis sa maman puis son papa, seul ou accompagné.
Les documents légaux, mais nous autres, on avait fait les documents légaux à temps indéfini.
OK, parfait.
OK. Donc, lui, il peut l'emmener prendre l'avion, puis moi, je peux la prendre, puis même affaire, le vice-versa, sans limite, là. Parce que sinon, ça devenait trop lourd, là. Fallait faire un document ouvert, ça, on pouvait dire.
Parfait.
Quand même, le plus long voyage qu'elle a fait toute seule, elle avait ça, 8 ans et demi, elle a fait Montréal-Tokyo, tu sais.
Mais dans l'obtention de tes visas, tu sais, pour pouvoir demeurer à un endroit, à un autre endroit, le fait que le papa n'était pas là, est-ce que les documents faisaient, entre guillemets, la job aussi pour ça?
Bien, en principe, oui, parce que j'avais la garde légale. Donc, c'est moi qui ai la garde complète et légale. Mm-hmm. Et puis, aussi, quand on s'est promené comme ça, on dépassait pas habituellement le 90 jours sans bouger. Fait que souvent, on n'avait même pas besoin des visas, tu sais, ou c'était des visas bidons, un peu, tu sais, comme, je sais pas si tu as déjà été au Japon, là, mais, tu sais, c'est un peu comme quand tu vas à Cuba, là, tu signes un petit papier, là, ça coûte 10$, puis tu as un visa, là. Okay. C'est un peu ridicule, là, c'est un peu un affaire de même au Japon. Quand elle est arrivée à Tokyo, justement, c'est ça, je me suis dit, parce que moi, je l'attendais comme de l'autre bord de la ligne, là, tu sais, elle passait les douanes, tout ça, je me suis montré, mais le petit visa, là, qui c'est qui va signer, est tout seul, tu sais, ils vont peut-être venir me chercher pour aller le signer. Fait que, ben non, elle arrive, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec le petit visa? Ben, elle dit, me l'ont fait signer. Elle avait évité.
Tu sais, dans ce cas-là, c'est correct.
Ça vaut vraiment quelque chose, tu sais.
C'est ça, tu vois qu'en même temps, il y a des cracks. Tu sais, je dirais, c'est correct dans votre cas, mais dans d'autres cas, c'est là que tu vois.
Non, il y a des cracks. Oui. Moi, dans mon cas, c'était bien pour moi parce que, tu sais, on a fait. Tu sais, il n'y avait pas rien de bizarre, là. Mais, tu sais, quand je regarde comment ça se passe, là. Moi, je serais inquiète des fois. Là.
Oui, c'est ça, pour ton prochain, là, tu sais. Donc là, vous faites combien de pays? Quel pays pendant un an et demi?
Ben, écoute, on a fait... c'est ça. On a fait les États-Unis. On a fait l'Australie. On a fait le Japon. On a fait l'Espagne. On est en Allemagne. On est en Autriche. On est en France. On est en Italie. Mon Dieu! C'est même plus. Ah, on a été à Dubaï. Écoute, on s'est promené beaucoup.
Wow! Mais comment vous vivez? Tu sais, toi, là, t'es monoparentale avec ton enfant. Un enfant, on sait que ça tombe malade de temps en temps. Ça attrape des petits virus. Ça prend des vaccins pour chaque destination. Tu sais, ça dépend d'une destination à l'autre.
Ouais, ben, on les avait tous pris, nos vaccins, avant de partir.
Sachant que vous n'alliez pas rester juste aux États-Unis.
Oh, oui, c'est ça. On avait déjà tous nos vaccins de voyage et tout. Au niveau de la santé, ben évidemment, j'avais une assurance médicale là, que j'ai pris pour pendant qu'on était en voyage, c'est évident. Mais sincèrement, on n'a jamais vraiment eu besoin parce qu'on est chanceuse, là, je touche du bois, là. On a une santé de fer, tu sais. Bon, ma fille a un peu de misère avec la chaleur, là, mais ça, c'est pas. Mais tu sais, sinon, on n'a pas de gros problèmes de santé. Ça va vraiment bien.
Il n'y avait pas de d'allergie majeure ou quelque chose qui fait que...
Exactement, tu sais, là-dessus, tu sais, si j'avais eu un enfant avec des problèmes particuliers de santé, peut-être que j'y aurais pensé plus, là, tu sais.
Ouais.
Mais de toute façon, tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, j'aurais repris un avion vite fait, là, tu sais.
Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire, hein? C'est que des fois, on s'imagine que quand on est expatrié, on est tellement loin, mais en même temps, souvent, on est juste à quelques heures de la maison.
Oui, c'est ça. Surtout en voyageant beaucoup comme ça, puis c'est ça, je parlais justement récemment avec ma fille, tu sais, que sais, son père habite à Matane. Fait que quand on va à Montréal, si elle va chez son père, elle se tape 8 heures de route, là, quasiment pour aller à Matane. T'sais. C'est ça que je disais, t'sais, pour toi, venir en Italie, c'est comme aller à Matane, finalement, parce que ça prend à peu près le même temps.
C'est ça.
C'est juste que le moyen de transport, il change. Fait que, au niveau de les distances, on dirait que les choses changent. T'es plus c'est si ça. Loin que ça. La place n'est pas si grosse que ça, finalement. T'sais.
La perception est vraiment différente. Puis est-ce que vous avez fini par vous sentir... Est-ce que vous avez développé un sentiment d'appartenance à quelque part là-dedans ou vous vous promeniez tellement que vous vous sentiez toujours plus touriste?
Bien, sans développer un sentiment d'appartenance, c'est vrai qu'on était pas mal touristes tout ce temps-là. Là. Tu sais, toute cette période d'un an et demi-là, on était vraiment touristes. Puis, je le regrette pas. Tu sais, vraiment, on en profitait pour visiter au max. Puis, tu sais, on jouait les touristes à plein. Là. Tu sais, on visitait tout, on se promenait, on a vraiment profité. Là. Tu sais, en Australie, on a fait la Great Ocean Road, je pense qu'on l'a fait deux fois parce qu'on l'a trouvé tellement belle, puis c'était tellement le fun. Donc, tu sais, on l'a fait la totale, tu sais.
Qu'est-ce qui se passe après un an et demi?
Ben là, finalement, on a déposé les valises en Italie à Vérone.
OK.
OK. J'avais eu...
Ton contrat comme était fini à ce moment-là.
J'avais une porte ouverte pour une occasion. J'avais eu un contrat de 3 ans dans un conseil d'administration dans le bout de Vérone. Donc, okay. Bon, je pouvais le faire, même si ça ne m'obligeait pas à être là. Ça me permettait d'avoir le visa, puis le permis de séjour, puis bon, garde, on va l'essayer. Puis en plus, il y avait quelqu'un là-dedans qui était censé... Parce que quand on avait parlé que, tu sais, peut-être je pourrais aller m'installer là. On m'avait dit, oh oui, tu sais, il va y avoir quelqu'un pour te guider rendu là. Puis, fait que si tu veux, ben garde, inquiète-toi pas, tu vas être bien encadré, tu sais, puisque j'étais comme un peu, je parlais pas la langue. Fait que j'étais un peu insécure. Mm-hmm. J'étais vraiment pas préparée. Puis, ça a été mon erreur. On voit les erreurs un peu, les avoir faites. Ouais. J'ai comme mis comme tout ça, oui, OK. Fait que je l'ai comme mis dans ses mains à cette personne-là. Puis finalement, bon, ça s'est pas fait. Fait que je suis arrivée ici avec les valises. Puis finalement, ben, on était pas mal laissés à nous-mêmes. Tu sais. Ça a été une expérience.
Insécurisante.
Stressante. Mm-hmm. Oui. Parce que tu parles pas la langue. Là, faut t'inscrire ton enfant à l'école. Cet enfant-là va à l'école en italien, qui, elle non plus, parle pas italien, est perdu. Fait que là, communiquer avec les professeurs, elle, elle y arrive pas, mais moi, j'y arrive pas plus. S'organiser, les permis de séjour. Parce que là, je travaille avec un visa, mais là, faut que tu transformes ça en permis de séjour. Puis ça a été un peu. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est. Se préparer avant. T'sais, on l'entend souvent dans tes podcasts, dans les commentaires. C'est pas un voyage sur la plage à Cuba. Là.
Non, c'est ça.
Faut se préparer.
Parce que des fois, il y a des gens qui vont réussir l'expérience sans vraiment s'être préparé. T'sais, ça arrive. Puis, je comprends que ça arrive, mais en même temps, c'est une question d'optimiser ton expérience aussi, puis de faire le moins d'erreurs possible puis de perdre le moins d'énergie dans des situations négatives aussi.
Oui, puis des situations qui relèvent du côté ridicule, ouais. Mais parfois, tu patauges dans quelque chose que tu connais pas, que ça devient une montagne, tu sais. Donc, c'est pas très agréable, tu sais. C'est pas le côté le plus agréable. C'est avoir été mieux préparé, avoir vraiment préparé le terrain avant mon arrivée, m'avoir organisé, avoir commencé des cours de langue avant d'arriver. Tu sais, c'est toutes des choses que tu peux faire quand tu n'agis pas comme une petite tête folle comme j'ai fait là.
Il y a toujours un petit bout comme ça, là, tu sais, plus corsé. Dans ton cas, ça semble avoir été celui-là. Mais là, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Parce qu'il fallait mettre du pain sur la table. En plus, tu n'es pas toute seule, tu as ta fille. Ouais. Tu avais décidé de déposer tes valises. Ça ne se passait pas comme tu pensais, mais il n'y en demeure pas moins qu'il faut que tu travailles. Ouais.
J'avais ce petit contrat-là, dans le fond, là, dans le conseil d'administration.
Ouais.
Fait que ça m'apportait quand même un petit revenu, là, tu sais. Bon, je n'étais pas riche, là, mais assez pour survivre, tu sais. Okay. Fait que ça m'a donné ça pour les 3 premières années. Là, maintenant, ça va faire bientôt 5 ans que je suis ici. Donc, le contrat, évidemment, c'est terminé. J'ai anticipé la chose cette fois-là.
Oui.
Et j'ai commencé à chercher du boulot, en fait, ici. Tu sais, je me suis dit, ben, je pourrais commencer à essayer de travailler sur le marché italien, tu sais. Mais, tu sais, mes diplômes n'étaient pas reconnus. Pilote d'hélicoptère, tu sais, que si je veux foutre avec ça ici.
Oui, c'est ça.
Ça marche pas bien, j'avais comme rien, là. Fait que, tu sais, je gérais l'entreprise de mon mari, mais, tu sais, j'avais pas de diplôme. Puis, l'Italie, c'est un monde qui fonctionne beaucoup, beaucoup à diplôme. On met de côté l'expérience, on s'en fout que t'en aies zéro. L'important, c'est que t'aies un beau papier.
Ouais.
Là, j'étais vraiment confrontée parce que j'avais beau essayer de me défendre avec mes expériences, leur montrer mon CV, ça comptait pour rien. Donc, ça, j'ai trouvé des petits boulots un peu, pour être bien honnête, un peu merdique, excuse-moi l'expression. Mais, tu sais, je les faisais parce que je me disais, ben, au moins, je travaille, puis ça va peut-être m'emmener ailleurs, ça va me faire connaître du monde, je vais m'intégrer plus, ça va me faire quelque chose, tu sais. Puis, mais, j'étais pas bien là-dedans, parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, à 45 ans, tu pars de zéro, là, tu sais. Mais ça fait son temps, puis finalement, après ça, on est retourné au Canada, en vacances, tout l'été, pour 3 mois.
Okay.
Et là, moi, vu que j'avais cette entreprise-là avec mon ex-mari, j'avais quand même comme un nom d'entreprise à moi. Fait que là, okay. J'ai toujours ça. Fait que je me suis dit, je pourrais faire quelque chose avec ça. Pas dans le monde de la pêche, pas mais quelque chose, tu sais, j'ai un nom, là. Tu sais, j'ai déjà. Fait que je vais essayer d'utiliser ça. Puis, moi, ce que j'avais toujours voulu faire, c'est vraiment de pouvoir travailler en télétravail. Parce que j'aime pas la restriction de me pointer à 9 heures au bureau, fermer à 4 heures, du lundi au vendredi, toujours à même place,
avoir
des horaires fixes. Moi, je me sens comme une prisonnière dans ce temps-là, dans ce monde-là. Là, je viens folle. Je fais de la claustrophobie. J'ai besoin de la liberté et de savoir que si je peux partir demain, ben je pars. T'sais. Fait que j'avais toujours voulu ça. Fait que pendant que j'étais au Canada, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que je pourrais faire dans ce sens-là avec ma petite entreprise. J'ai commencé à trouver un premier contrat d'entrée de données, en fait, pour des applications pour téléphone intelligent. Fait que c'était suffisant pour survivre. Fait que j'ai dit, OK, on repart. On repart en Italie. Là, la petite était à l'école, fait qu'elle voulait au moins finir son média. Là.
Oui.
Donc, on s'est en revenu, puis j'ai vécu avec ça, et tout en faisant ça, ben, je cherchais d'autres contrats. Puis tranquillement, ben, un autre contrat s'est ajouté, puis un autre contrat. Puis là, ben, maintenant, je fais du sous-titrage aussi de vidéos, aussi de la traduction. Donc, des fois, je sous-titre, mettons, du français au français. Des fois, ben, de l'anglais, je l'apporte au français ou quelque chose comme ça. T'sais. Mais tout ça, ça me permet de travailler d'où je veux. T'sais, j'ai été en Serbie, j'ai pas pris une journée de congé. Je suis partie avec mon ordinateur, je me suis pris un Airbnb qui avait le Wi-Fi, puis je travaillais le matin, puis l'après-midi, ben, je visitais Belgrade.
C'est merveilleux, c'est d'une liberté, là. C'est grandiose de pouvoir faire ça.
Oui, ben, pour moi, c'est mon bien le plus précieux.
C'est ça.
Puis pour moi, il n'y a pas une autre façon que je suis capable de vivre, c'est finalement sans venir folle.
Oui, c'est ça. Bien, c'est ton équilibre que tu trouves à travers ça. Puis, à mon avis, plus tu goûtes à ça, plus tu en as besoin. Là. Ça devient comme... c'est comme une drogue un peu là, de quand on s'habitue à... Tu sais, oui, tu travailles, mais de façon libre.
Exactement. Mais ça m'aime quand même parce que, tu sais, maintenant, j'ai des gens qui travaillent pour moi un peu.
Mm-hmm.
Et puis, tu sais, j'ai pas toujours de la facilité à trouver des gens parce que ça demande de l'autodiscipline aussi parce que quand tu peux commencer à l'heure que tu veux, travailler les journées que tu veux puis finir à l'heure que tu veux, faut que tu t'encadres toi-même à un moment donné parce que sinon, si tu remets toujours à plus tard, ben, tu le fais pas puis tu gagnes pas d'argent.
Oui, c'est ça. Ça, c'est le morceau de l'entrepreneuriat qui est assez important. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Là. Ça, c'est ça.
Exactement. Fait que ça prend de l'autodiscipline, mais je trouve que ça vaut la peine de payer ce prix-là pour la liberté que ça donne. Tu sais, demain matin, ma fille est malade, puis il faut que j'aille chez le médecin avec elle ou à leur rendez-vous chez le dentiste, ben j'y vais, puis je me casse pas la tête, là.
C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que tu peux choisir tes priorités puis organiser ton horaire autour de ça. Ça implique pas de ne pas travailler, mais ça prend la personnalité de l'entrepreneur, là.
Exactement.
Ça me donne, là, je vois le temps passer puis je me dis, je pense qu'on pourrait même refaire un épisode au complet là-dessus parce que il y a tellement d'informations à aller chercher puis peut-être de raccourcis quand on entend quelqu'un qui a fait le chemin en parler. Donc, on pourrait toujours considérer reparler de ça ensemble dans un autre épisode. Maintenant, j'aimerais ça qu'on aborde vraiment lié à ton expatriation, ton expérience à toi, là, le retour. J'aimerais ça savoir si tu penses rentrer au Québec éventuellement. Ou tu le sais pas, où est-ce que tu en es par rapport à ça?
Ben, moi, ce que je sais certainement, et ça, ça fait pas longtemps, c'est que je resterai pas en Italie.
OK.
Je dis pas que c'est une mauvaise expérience. L'Italie, c'est un magnifique pays, mais pour moi, au niveau de l'intégration, au niveau de l'adaptation, j'ai plus de mal. Je sais pas si c'est parce que je travaille dans la technologie et tout, donc je suis peut-être quelqu'un plus moderne, on peut dire.
Ouais.
Et l'Italie, mon Dieu, comme je n'avais déjà parlé avec toi, c'est un peu comme 50 ans en arrière, là. Donc, au niveau des mentalités, au niveau des façons de vivre, et ça me confronte beaucoup. Je suis une mère monoparentale, des fois, ça me cause des problèmes parce que. Imagine-toi, le Québec, 50 ans en arrière, quand tu étais monoparental, c'était pas toujours évident. Je suis confrontée à des problèmes aussi débiles que ça. Tu sais, tu dis, mais mon Dieu, Seigneur! T'sais. Donc, ça me donne pas le goût de rester. Ça me donne pas le goût de rester du tout. Le pays est magnifique. J'allais voyager de bord en bord. J'ai vu des coins magnifiques. Mais pour y vivre, non. Quand je suis arrivée ici, je pensais... Puis il y a ça aussi. Quand je suis arrivée ici, pour moi, je m'établissais ici pour la vie et je me suis mis beaucoup cette pression-là. Au lieu de me dire, « Ben, gars, si t'es pas bien, tu partiras, tu sais. » Donc, j'avais une grosse pression sur moi qui a fait que ça a fait un goût amer. Au lieu de me garder dans ma tête que
de partir
ailleurs, que c'était pas un échec.
Oui, absolument.
Donc, ce que je veux dire... que c'était juste une expérience.
Oui.
Alors, à court ou à moyen terme, c'était pas important. C'était, regarde, là, je vis là, puis c'est ça, puis demain, ben, on verra bien, puis c'est pas un échec, puis c'est pas une réussite, c'est juste que c'est comme ça. T'sais?
C'est ça, puis...
C'est dur.
Exactement, puis quand même, à travers les embûches ou les côtés plus difficiles que tu peux avoir vécu dans les dernières années en vivant en Italie, il n'en demeure pas moins que l'expérience gagnée vaut beaucoup plus que ça. Tu sais, maintenant, c'est de prendre une décision puis de te dire, OK, what's next? C'est qu'est-ce qui vient après ça? Est-ce que vous avez pensé rentrer au Québec ou vous pensez à aller ailleurs?
Ben là, ma fille, elle a commencé son lycée.
C'est ça, là, elle a grandi, là.
Moi, ouais, là, elle est au lycée. Elle a le goût de faire son lycée ici au complet. Là-dessus, je la bac parce que, sincèrement, le programme est très intéressant, le cursus. Elle a des matières qu'elle n'aurait pas au Québec. Elle voit des choses, elle a des cours de latin. Ouais. Donc, tu sais, elle va ressortir de là avec une culture que chez nous, on ne sort pas avec ça à l'école, t'sais. Donc, je me dis oui, c'est un plus parce qu'en plus, elle ne rate pas non plus de tout ce que la culture du Québec peut y apporter. Fait que c'est que de l'enrichissement. Donc, je la supporte là-dedans. Je ne sais pas si, vu que maintenant, je suis travailleur plus autonome et tout, puis que je n'ai pas de liaison avec l'Italie, je vais être toujours capable de renouveler mes permis de séjour. Je ne sais pas. Il arrivera ce qui arrivera. Rentrer au Québec, c'est sûr qu'on va faire un passage par là, c'est clair. Mais moi, personnellement, c'est pas mon objectif. En voyageant, mon endroit que j'ai préféré, ça a vraiment été la Louisiane.
Okay.
Moi, c'est un rêve à réaliser, ça va être d'aller me réinstaller là. T'sais, finir mes vieux jours-là. Là. C'est là que j'aimerais bien avoir mon pied à terre. Toujours en prenant des avions pour aller voir mon monde puis aller manger ma poutine une fois de temps en temps.
C'est ça, toujours en gardant un petit pied à la maison quand même, mais en allant vivre dans un endroit où vous êtes vraiment bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréhendes du fait de quitter l'Italie ou pas vraiment?
De quitter l'Italie, absolument pas. De rentrer au Québec, j'ai peur d'aller m'emprisonner.
Oui, mais c'est parce que là, c'est ça. Ton horizon est rendu extrêmement vaste. Tu sais, c'est grand. Tu vois toutes les possibilités, tous les endroits où tu pourrais te trouver. Là. Donc, c'est comme un peu de retourner dans... Moi, je dis souvent dans mes vieilles pantoufles. Dans...
Oui, c'est ça. Mais une manière, tu t'aimes, tu sais. Puis, tu sais, aussi, t'as voyagé... L'expérience d'expat, c'est quelque chose que tu peux pas partager facilement avec tout le monde. Mm-hmm. Le monde t'écoute, mais tu te sens pas compris.
Fait que tu finis par en parler moins aussi.
Oui, exactement. Puis aussi, ben, tu vois, en voyageant beaucoup, tu vois différentes mentalités, différentes cultures, différents modes de vie. Puis là, ben, tu sais, au Québec, on a notre. Mais c'est là notre, tu sais, il est aussi encadré dans le sien, tu sais, mais toi, t'as aussi de l'autre. Fait que tu deviens comme une espèce, comment, un espèce de patchwork. Mm-hmm. Fait que finalement, tu te reconnais plus vraiment nulle part. Ça me fait un peu peur, tu sais, de... En même temps, c'est ça, tu sais, je suis contente de ta communauté à toi que tu as faite, là, avec ces podcasts-là, parce que finalement, tu te sens moins tout seul au monde.
C'est ça. Bien, c'est qu'on vit toutes des expériences extrêmement uniques, mais en même temps, les défis finissent par se rejoindre. Le style d'expérience, les challenges qu'on peut rencontrer, mais aussi toute la liberté qu'on va chercher à travers ça, les opportunités puis les expériences.
Exactement. Les expériences, de voir que tous les points de vue sont tellement, tellement, tellement vastes. On a notre point de vue au Québec, dans notre culture à nous, on a un point de vue X sur les choses, puis ailleurs, ben, ils en ont un autre. Mais quand tu restes toujours au Québec, tu ne sors pas de là, tu ne sais pas qu'il y en a d'autres, qu'il y a une autre façon de voir les choses. Là, ben, tu reviens, puis là, ben, tu es confronté à ces gens-là qui sont comme un peu encarcanés dans leur vieille pantoufle, comme tu dis, puis tu dis, hey, ouais, j'ai l'impression que je peux pas parler avec personne, tu sais.
C'est ça, puis en même temps, mais c'est pas un reproche parce que...
Non.
Parce qu'ils sont dans leur réalité, c'est correct, tu sais. C'est juste que l'expérience vécue t'amène, tu sais, à voir les choses d'un autre point de vue. Puis là, des fois, ça devient difficile à partager parce que... Juste, alors que dans notre communauté de Québécoises expatriées, on a des échanges, puis même si on n'est pas au même endroit puis on n'a pas la même perception, on sait que la perception de l'autre, qui n'est pas celle du Québec non plus, puis qui n'est pas celle de la nôtre non plus.
Exactement, on n'a plus. On a comme, tu sais, on est comme...
Une ouverture différente.
On a une espèce de patchwork de plein d'expériences internationales, si je peux dire.
Oui. Ah oui, oui. Puis tu sais, ça devient super excitant. Là, moi, à chaque podcast, à chaque entrevue, à chaque fille, femme que je rencontre qui est expatriée, je suis super excitée par la nouvelle aventure, la nouvelle expérience qu'on va découvrir parce que c'est jamais la même chose, même si les défis se ressemblent. Donc, j'arrive aux questions à rafale, Sandra. Les petites questions que je pose toujours à chaque entrevue à la fin. J'aimerais savoir d'abord, qu'est-ce que t'as... Non, en fait, je veux savoir d'abord quelle est ta meilleure série Netflix à vie, si évidemment tu as suivi des séries.
Excuse-moi, j'ai pas bien compris ta question. Ah,
quelle est ta meilleure série Netflix à vie?
Tu me croiras pas, j'ai pas Netflix.
Parfait, ben c'est bien correct. Donc tu vois, à l'italienne, c'est pas vrai.
Moi, j'ai Point TV.
Donc, est-ce que tu écoutes des podcasts? Et si oui, quel est le dernier que tu as écouté?
Le tien.
Wouhou! Ah ben ça, c'est flatteur. Est-ce que tu es plus du type livre ou audiobook et qu'est-ce que tu lis présentement?
Audiobook
et qu'est-ce que tu écoutes?
Ben, pas audiobook, mais iPad, là. Je lis sur mon iPad.
Ah, OK.
Des livres sur mon iPad. Ben, le dernier de Nelly Arcand.
OK. Si je te donnais un billet d'avion pour aller vivre un an dans une destination de ton choix, ce serait laquelle?
À Nouvelle-Orléans.
On en a un petit peu parlé. Finalement, qu'est-ce que tu penses de cette question-là? Est-ce que tu penses que l'on est expat ou qu'on le devient?
Oh mon Dieu! Je pense un petit peu des deux, là. Tu m'aimeras pas avec ma réponse.
Non, mais en fait, c'est que je sais que c'est une question un peu, entre guillemets, tricky, là. C'est que, tu sais, on peut se placer d'un côté, on peut se placer de l'autre, mais en même temps, qu'est-ce qui est le plus fort de ton côté?
Je pense qu'on a de la graine d'expat. Mm-hmm. Mais il faut la faire pousser, puis la faire pousser, c'est avec des expériences qu'on vit. Faut y goûter pour l'apprécier.
Oui, c'est ça. Absolument. Puis il y en a qui n'aimeront pas là, cette expérience-là.
Exactement. Parce qu'ils sont pas. Fait que, tu sais, eux, ils n'ont pas la graine. Si tu as la graine, tu y goûtes un peu, ça va pousser.
Oui, parfait. Ben écoute, Sandra, un gros merci. J'ai adoré cette entrevue-là. On en fera peut-être une autre sur l'entrepreneuriat en tant qu'expat, justement. Mais pour le moment, là, je te remercie d'avoir partagé ton expérience. Je pense que c'est hyper riche, puis ça va pouvoir donner peut-être des outils, des ressources ou des renseignements pour aussi des gens qui pourraient vouloir vivre ce genre d'expérience-là, mais qui se sentent peut-être un peu empêchés par justement le fait, par la monoparentalité, finalement. Ouais. Alors ça, c'est hyper intéressant. Puis aussi, ben, ton histoire en général prouve encore une fois qu'il y a plein de façons de devenir expatrié, puis que c'est ça. T'sais, je veux dire, on repart, si on retourne à ton cours de pilote d'hélicoptère le jour où tu as peut-être perdu cet emploi-là, il y avait un million d'autres surprises qui t'attendaient après l'épreuve. Puis,
Exactement. Moi, je te remercie beaucoup de ton invitation, puis je te remercie beaucoup, beaucoup des ressources que tu donnes aux expatriés, parce que c'est vraiment, vraiment des belles ressources pour les gens qui sont dans ces situations-là.
Ah,
c'est
merci! Beau.
Est-ce qu'un épisode comme celui-là ne vous donne pas une petite dose de confiance et de courage? Personnellement, quand j'entends des histoires comme ça, je crois vraiment en le fait que rien n'arrive pour rien et qu'un monde de possibilités attend ceux et celles qui veulent bien voir les opportunités.
Restez avec nous pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié, afin de passer le mot, que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer Texas Mama Blog ou Texas Mama Blog Expat. Merci!